Salut tout le monde, bienvenue sur Snack. Aujourd'hui, on accueille Aaron Rami. Il est catcheur, il va nous dire tout ce qui se cache derrière ce sport mythique. On va parler de ça avec lui tout de suite. Mais avant, abonnez-vous, activez la cloche sur nos différentes publications, mettez un j'aime, ça nous fait plaisir évidemment. Commentez avec, si possible, donc les personnes que vous verriez bien inviter sur Snack. Et on commence tout de suite avec Aaron. Salut Aaron.
Comment ça va?
Mais trop bien. N'hésite pas à te servir.
Ouais.
Maintenant, je suppose que la diète est d'application pour un catcheur.
Ah ouais, tout à fait. Tout est calculé. Toutes les calories sont comptées. Donc, mais bon, je vais quand même me faire plaisir un petit peu aujourd'hui avec ça.
À l'aise. On va commencer tout de suite avec différentes questions à propos du catch. Comment t'apprends à ne pas faire mal?
Alors tu fais mal, c'est pas que tu apprends à ne pas faire mal, c'est que tu doses. Là en l'occurrence, j'ai évité de t'envoyer aux urgences parce que voilà, on a quand même l'interview à faire ensemble, tu vois. Mais tu peux faire très très mal à ton adversaire. Le but du catch n'est absolument pas de lui faire mal, c'est de le protéger bien évidemment et de proposer le meilleur match possible. Donc là en l'occurrence, il y a des manières de faire certaines choses qui vont faire en sorte que ça peut faire mal sans nécessairement blesser et qui va permettre à la personne avec qui tu travailles de catcher le lendemain, le surlendemain, de rentrer chez lui, voir sa famille sans problème. Il y a des accidents qui arrivent bien évidemment, mais le but d'un catcheur n'est absolument pas de blesser son adversaire.
Aaron, la scène catch ici en Belgique, tu fais partie de cette scène depuis combien de temps?
Écoute, c'est ma 11e année.
11e année en Belgique. Tu vas aussi dans d'autres pays alors?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai la chance de faire partie de ces générations, j'ai envie de dire un peu dorées du catch belge, un peu à l'instar du foot qu'on a eu avec Eden Hazard et compagnie. Et donc en fait, cette génération s'exporte énormément. Donc j'ai eu la chance de catcher dans plus de 10 pays à travers toute l'Europe, même au-delà. Je me suis retrouvé au Pakistan une fois.
Allez, ouais. OK. Avec des catcheurs de là-bas, alors
Eh ben non, je pense qu'il y avait qu'un seul catcheur de là-bas. Le reste, c'était une coalition mondiale presque, tu vois. Il y avait des Américains, il y avait des Français, il y avait des Anglais, il y avait des Irlandais, il y avait de tout. Et on s'est retrouvé là-bas pour faire une tournée au Pakistan.
Tu Trop vois, bien.
Donc, ouais, top, top, top. Ouais.
Donc le catch, c'est vraiment quelque chose, encore aujourd'hui. Parce que je me souviens de longues après-midi passées quand j'étais adolescent à regarder la WWE. Et ici, ça continue, quoi.
Ouais, tout à
en
fait.
Europe aussi.
Ouais, tout à fait, partout. Il y a vraiment un boom dans le catch belge, même dans le catch européen, je dirais. Mais oui, ça, en fait, le catch ne s'est jamais arrêté. Il y a toujours eu du catch. C'est juste que le catch qu'on a connu il y a quelques années, c'était à un niveau, disons, très amateur. Et là, en l'occurrence, ça se professionnalise de plus en plus. Et là, il y a des véritables structures européennes qui font des shows énormes et même des structures belges qui font des shows énormes avec des écoles, des académies qui se mettent en place. Donc, il y a toute une scène qui est en train d'être construite et qui peut-être, dans plusieurs années quand même, pourrait plus ou moins rivaliser avec les Américains.
Mais c'est incroyable quand même. Toujours une espèce de latence ici en Europe, mais finalement le catch a pris un essor de dingue aussi, alors qu'on le voyait donc, comme je te dis, il y a 20 ans de ça, je voyais donc sur MTV, MCM, je sais plus sur quelle chaîne
AB3
c'était.
Aussi.
AB3
le soir.
AB3 le soir, oui, oui. C'était un show. Ouais. C'était un show à chaque fois, c'était incroyable. Les commentateurs font beaucoup, mais évidemment sur scène c'est la folie quoi.
Sur le ring, attention, pas sur scène. Sur
voilà,
le ring,
sur exactement, le ring. Sur le ring. Et ce ring, finalement, t'y es monté pour la première fois quand?
Il y a 11 ans, il y a littéralement 11 ans. En fait, si tu veux savoir, moi c'était mon rêve de gosse. Quand j'étais gamin, je regardais la télé, comme toi j'imagine, et je voyais ces Américains, tu vois, sur la troisième corde, etc., avec un public de folie derrière, et j'avais décidé de devenir catcheur. C'est une décision, il y a eu un clic dans ma tête, je me suis dit je veux être catcheur un jour. Et on me disait que c'était pas possible. Tu sais, en Belgique, malheureusement, souvent on te dit que c'est pas possible en Belgique, tu vois. Mais là, en l'occurrence, c'est comme si je disais que je voulais être astronaute, tu vois. Donc on me disait non, c'est pas possible. Donc j'ai d'abord terminé mes études. Une fois que j'ai terminé mes études, j'ai rejoint une école de catch, tout simplement parce que j'avais pas de boulot à ce moment-là. Tu vois, j'étais parti à l'étranger, j'étais revenu, j'avais pas de boulot. Et j'ai rejoint une école de catch. Et pour la petite histoire, la première fois, mais vraiment la première fois que je suis monté sur un ring de catch, c'était juste avant mon tout premier match. C'est-à-dire qu'en fait, tous les entraînements, je les avais faits sur des tatamis. Il n'y avait pas de cordes. Je ne savais pas courir dans les cordes. Je ne savais pas monter sur la troisième corde et rien du tout. Donc, mon tout premier match, les images, elles sont sur YouTube, tu vois. Si tu regardes, je ne sais pas courir dans les cordes. En fait, je cours, je freine, je touche la corde et puis je reviens. Parce que c'était la première fois que je faisais ça, tu vois. J'avais pas du tout l'habitude. Nous, à l'époque, on chutait sur du tatami, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas de structure en place pour que tu puisses avoir un ring monté H24 et il y a tout un travail de cordes à faire, etc. Et on n'avait pas ça. Donc, c'était la première fois.
C'était c'est cette première fois-là. Comment est-ce qu'on la retrouve sur YouTube?
Oh, je pense que il faut chercher un peu. À mon avis, ça doit être dans les archives. Mais je pense que si on met Achille et pas Aaron, parce que mon tout premier nom de catcheur, c'était Achille. Me demande pas pourquoi, parce que c'est une histoire tellement nulle, tu vois. Bon, tu veux savoir pourquoi?
Je veux savoir pourquoi, ouais.
J'ai honte. En fait, c'est tout con. Quand je suis arrivé, on m'a demandé de prendre un nom de scène, tu vois, pour que ça soit plus vendeur, etc. Et à l'époque, t'avais Undertaker, t'avais Rey Mysterio, t'avais, tu vois, Batista,
ouais,
tu vois.
Ouais, ouais.
Et moi, je me suis dit, quel est le personnage le plus stylé que je connaisse, enfin, ou que j'ai vu? Et en fait, j'ai regardé le film 3 avec, ouais, Brad Pitt. Et il s'appelait Achille.
Mec, ça rend bien quand même.
Non, pas du tout, c'est nul. Il est blond aux yeux bleus, je suis brun aux yeux bruns. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Donc j'ai dit Achille et ça me poursuit encore malheureusement.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, parce que ceux qui m'ont connu au tout début, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être deux ans. Et ceux qui m'ont connu à cette époque-là m'appellent encore Achille dans les vestiaires. Et bon, ça m'énerve, tu vois. J'ai envie de le dire, non, arrête, tu vois.
C'est plus à la mode les blases de catcheurs comme ça.
C'est plus trop à la mode, c'est vrai. C'est souvent des noms, prénoms, ou alors voire même les vrais noms et prénoms des différents catcheurs, tu, ouais, vois. Donc non, c'est plus trop utilisé. Bah, tu sais, après, le catch évolue, hein. Tu vois, à l'époque, t'avais des catcheurs qui s'appelaient Machine, tu vois, ou alors qui s'appelaient Tracteur, tu vois. Donc là, maintenant, ouais, tu vois. Donc là, maintenant, c'est dans l'air du temps. Tu vois, c'est, ouais, nom, prénom, etc.
On va revenir à ce premier match que tu as vécu.
Ouais.
Comment ça s'est passé?
En fait, je ne savais pas comment j'allais réagir. Sincèrement, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir. Je me rappelle, c'était une toute petite salle. Donc, ce n'était pas un stade ou caisse. C'était une toute petite salle de gym. Il y avait le ring qui était monté. Il y avait quand même facilement 150 personnes pour un petit show bruxellois il y a plus de 10 ans. C'est pas mal, hein. Ils avaient mis un petit stage, etc. C'était sympa, et quelques lumières. Honnêtement, ils avaient fait un effort, c'était très très bien. Et moi, je me rappelle, j'étais derrière le rideau. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais pas de tenue de catch. Tu vois, j'avais pas de tenue de catch à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été dans une grande marque de vêtements de sport. Tu vois,
ouais,
je sais pas si,
ouais,
on peut,
ouais,
dire le nom, mais peu importe.
Si on peut le dire.
Un peu, ouais. Décathlon. Ouais. Ouais. J'étais chez Décathlon. J'ai pris un maillot de piscine. Tu vois, et tu vois, sur le maillot de piscine, t'as le petit logo là, tu vois, et je l'ai gratté. Et si tu veux, mon tout premier match de catch, j'avais un maillot de piscine, littéralement, avec juste des bêtes genouillères et des coudières de volleyball.
Excellent.
Et j'avais des chaussures de catch, ouais, des chaussures de catch à l'ancienne. Uh-huh. Et j'étais là devant le rideau, je me rappelle, je me dis, mais je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment les gens vont réagir.
Ok.
Et surtout que, en fait, personne n'était au courant. Parce que moi, j'avais le fait qu'on me disait, quand j'étais gamin, tu vois, c'est pas possible, oublie, je l'avais un peu en travers de la gorge.
D'accord.
Donc je m'entraînais en cachette. Mmh. Personne n'était au courant, tu vois. Et la date, je me rappelle, parce que c'était seulement deux mois après mon premier entraînement. Donc j'ai eu la chance d'aller très très vite.
Ok.
Quand je savais que j'allais être sur le show, j'ai donné rendez-vous à tous mes proches, mes amis, ceux qui me disaient que c'était pas possible. Tu vois. Je leur ai dit, ouais, les amis, venez une telle date,
cette
une telle heure. Voilà, celle-là. Personne ne savait. J'ai une surprise pour vous, tu vois. D'ailleurs, ma mère était dans le lot. Elle n'était pas au courant, tu vois.
Ok.
Et ils sont rentrés dans cette salle et ils voient un ring. Tu vois, un ring. Donc, pour les novices, ils voient pas trop la différence entre un ring de boxe et un ring de catch, tu vois. Et beaucoup pensaient que c'était moi l'organisateur de l'événement. Tu vois, ils pensaient que c'est moi, j'étais fan de catch, je voulais organiser un show de catch, etc. Ou un show de boxe, peu importe. Jusqu'au moment où je suis sorti en slip. Tu vois. Je suis sorti en slip et là, il y a eu une pop de dingue, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que personne s'attendait à ça, tu vois. Personne s'attendait
à ça. Ils étaient super chauds, ils étaient contents pour,
ouais,
toi, évidemment.
Ils étaient contents.
C'était ton rêve aussi.
Ouais, c'était mon rêve. Tout le monde savait que c'était mon rêve et tout le monde avait oublié que c'était mon rêve. Et, ouais, jusqu'au moment où je l'aurais bien appelé, regardez, vous avez dit que c'était possible.
On commence par quoi? La boxe?
Pour le catch, tu veux dire?
Ouais.
Non, pas du tout. On peut faire de la boxe si on veut, tu vois. On peut faire du taekwondo, on peut faire ce qu'on veut, mais ça n'a, il y a absolument aucun rapport entre entre la boxe et le catch. Absolument aucun, parce que premièrement, la boxe c'est un sport de compétition. Donc le but d'un boxeur c'est de gagner le combat, ce qui est tout à fait normal. Comme au foot, le but c'est de gagner le match. Le catch c'est un sport spectacle. Donc le but d'un catcheur n'est pas de gagner le match, c'est de proposer le meilleur match possible. Donc ça n'a pas, il y a absolument rien qui est en rapport entre le catch et la boxe, sauf peut-être le conditionnement. Ils doivent avoir une excellente condition physique, nous aussi. Si tu dois faire un comparatif, j'irais plutôt soit le judo, soit alors la lutte gréco-romaine, libre olympique, etc. Parce que il y a l'aspect chute qui est présent. C'est-à-dire qu'un catcheur, c'est une personne qui doit savoir chuter. Et à partir du moment où tu sais chuter, tu sais absorber le choc. Donc, on a tendance à croire que le ring, c'est un trampoline. Loin de là, c'est du bois, c'est vraiment du bois. C'est juste que c'est comme un ring de boxe, sauf qu'au milieu, tu as un amortisseur qui permet d'absorber un petit peu le choc.
Okay.
Mais au-dessus de l'amortisseur, c'est du bois. Et après, tu as une toute petite couche de protection qui fait que voilà, tu t'ouvres pas à chaque fois. Quoi, tu vois. Et les cordes sont hyper tendues, c'est pour ça que tu peux courir dans les cordes et la corde te renvoie de l'autre côté. Alors que dans un ring de boxe, les cordes, bah, tu peux pas vraiment rebondir sur la corde. Quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais il y a absolument... Je sais que beaucoup de gens font ce comparatif à tort entre la boxe et le catch, mais il n'y a absolument aucun rapport entre la boxe et le catch.
C'est pour ça que je te pose la question, parce que justement, donc, sport-spectacle,
ouais.
Apprendre à tomber, c'est intéressant. On a déjà quelques indices comme ça. Apprendre à tomber, comment est-ce qu'on apprend bien à tomber?
Alors, on se fait mal déjà, premièrement. La première chute, tu la sens passer. Non, même pas la première chute. Les 50, 60 premières chutes, tu les sens passer. Il y a une manière de tomber qui fait que tu peux protéger ton corps. Alors, au début, ça fait mal. Ça fait toujours mal maintenant, c'est pas que ça fait pas mal, c'est juste que le corps s'habitue. Exemple très très simple, une simple chute arrière, une bête chute arrière de base. Ce qui se passe, c'est que tu dois lever ton bassin, chuter sur le haut du dos et rentrer ta nuque. C'est-à-dire que l'impact se fait sur le haut du dos, tu vois. Et également, tu l'auras sans doute remarqué même dans le judo, on frappe très fort lorsqu'on chute. Pourquoi ? C'est pas juste pour le show, c'est pour casser l'onde de choc. Donc ça permet d'absorber et de limiter le retour du ring, etc. Et ça, c'est une chute basique, par exemple. Ça te permet de te protéger ton bassin et ta nuque, etc. Alors au début, ça fait mal parce que t'as le souffle coupé. Tu vois, t'as pas l'habitude. Mais au bout de plusieurs mois d'entraînement, ton corps commence à s'habituer et tu peux chuter. Donc moi, par exemple... je dis pas que ça fait pas mal, hein, mais je peux chuter par exemple là, ça me fera beaucoup moins mal que si tu le fais toi par exemple. Tu vois,
parce t'encaisses
que
le corps, bien quoi.
Ben, ton corps est habitué, il est drillé, tu vois, et tu peux chuter même une chute faciale, tu peux décoller et chuter de face, ça va me faire mal, c'est pas que ça va pas, parce que je suis humain, tu vois. Mm-hmm. Mais je saurais absorber le choc mieux que toi par exemple qui ne l'a jamais fait. Mm-hmm. Mais si tu te donnes les moyens de le faire, tu arriveras également, tu vois, c'est à la portée de tout le monde, tu vois.
En combien de temps tu t'es bien entraîné et t'as senti que ça portait ses fruits?
Alors, comme j'ai dit, moi, mon premier match, je l'ai eu après 2 mois. Alors, j'étais pas du tout prêt, certes, mais j'étais balancé dans le bain, comme ça, on m'a dit, apprends à nager, tu vois, c'est comme ça. Moi, je pense qu'il m'a fallu quand même 1 an et demi pour être rodé, tu vois.
Ok.
Parce que c'est à partir de ce moment-là, et encore 1 an et demi, je pense que j'y suis pas encore, parce qu'après 1 an et demi, j'ai tenté ma chance en Angleterre, et je me suis rendu compte qu'il y avait un monde d'écart entre ce que je faisais en Belgique et ce qui se passait en Angleterre.
D'accord.
Ouais, vraiment. Parce que, malheureusement, à ce moment-là, il y avait pas de show toutes les semaines. Là, on est en tournée, toutes les semaines, on est sur le ring. Mais à l'époque, c'était un show. Et quand je dis un show, c'est des petits shows de kermesse, etc., dans les foires et tout, comme on faisait avant, tu vois. Et il y en avait un tous les 3 mois, peut-être, tu vois. Donc, et malheureusement, le meilleur moyen d'apprendre, c'est en étant sur le ring, en travaillant, en prenant l'habitude de travailler le public et avec des personnes différentes. Et en Belgique, à ce moment-là, t'avais pas ça, tu vois. Donc, t'étais obligé de t'expatrier, tu vois. Mmh. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, je suis passé de un show tous les 3 mois à 10 shows d'affilée, donc un show par jour, tu vois.
C'est incroyable, c'est l'essor du catch ici, quand même. C'est dingue.
Ouais, 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 vraiment, vraiment.
Parce que c'est l'essor du catch ici, plus le fait que tu te sois entraîné, etc. Parce qu'avant, il n'y avait pas autant de shows en Belgique de catch, quoi. Hein.
Il n'y a jamais eu de tournée nationale de catch.
C'est ça.
Ça n'a jamais existé.
Et là, c'est le cas.
Là, ça fait la deuxième année.
C'est incroyable. Et donc, tu fais une tournée avec différents catcheurs, alors, de la région?
Non, en fait, il y a un noyau central qui est celui de la World Catch League, donc le noyau des catcheurs de la Ligue. Alors, ils viennent pas tous de la région, ils viennent à travers tout le pays, voire même de l'international. Et de temps en temps, il y a certains guests qui viennent de l'étranger pour renforcer un peu l'équipe, etc. Donc, ouais, en fait, c'est toutes les semaines sur le ring, toutes les semaines sur le ring, toutes les semaines sur le ring. Et ça, c'est génial. Je pense que c'est le rêve de tout catcheur, c'est d'être sur le ring. Et moi, pour moi, c'est encore plus parce que c'est être sur le ring dans mon pays. C'est ça qui est important, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le soir, je rentre chez moi, je dors dans mon lit. Et si je regarde la presse, je vois que la presse que je regardais quand j'étais gamin, les articles que je lisais quand j'étais gamin, parlent de ce qu'on a fait la veille. Et ça n'a pas de prix. Ça a beaucoup plus de valeur pour moi que de catcher au fin fond du Pakistan, par exemple.
Oui, évidemment. T'as gagné une ceinture d'ailleurs, on peut la voir là, juste derrière.
Très belle ceinture.
Très belle ceinture. Ouais. C'était la semaine passée alors.
La semaine passée à Pepinster, ouais,
tout raconte-nous.
Pepinster, qu'on appelle Pepamania. Donc c'est le plus gros show de Wallonie. C'est la deuxième année qu'on le fait. Plus de 500 personnes, ambiance incroyable. Ce qui m'étonne pas parce que c'est la province de Liège, c'est un peu le chaudron, je pense, de la Belgique. Tu vois, il y a une ambiance de dingue. Et c'était génial. J'ai fait face à nous, parce que je suis en match par équipe, c'est 2 contre 2. Hein. Donc face à nous, c'était les champions de l'époque, du coup, maintenant j'ai arraché le titre, tu vois. C'était des Hollandais, donc Ima, le géant batave. Géant batave, et pas bâtard, attention.
On va éviter.
On va éviter. Et Jason O'Connor. Et moi, j'étais en équipe avec un petit jeune qui monte très très bien. C'est d'ailleurs l'avenir du catch belge, qui vient de Herve, de la région, c'est pas si loin que ça. Julian Ventura, c'était sa première année en tant que professionnel. Et c'est incroyable parce qu'en moins d'un an, il a réussi à décrocher un titre dans le catch, ce qui n'arrive presque jamais. Donc ouais, c'était super, un public de folie, les gens devenaient fous parce qu'à un moment donné le match c'est prolongé dans les gradins, tu vois, dans les gradins en plein milieu du public, donc c'était c'était incroyable, c'était vraiment génial, top,
un show épique, quoi.
Ouais, on reviendra l'année prochaine pour Pepper Mania 3, ça c'est sûr et certain.
Mais on peut te voir dans différents shows à travers la Belgique d'ailleurs.
Ouais, tout à fait, ouais, à travers toute la Belgique, donc la Flandre, la Wallonie, Bruxelles. Cette année malheureusement j'étais blessé pendant 5 mois, donc j'étais à l'arrêt pendant 5 mois. Mais sinon c'est toutes les semaines, généralement là où il y a du catch, il y a Aaron Ramy, tu vois. Donc la World Catch League est vraiment tournée à travers tout le pays et c'est ça qui est bien.
Est-ce que t'en vis?
Tu peux en vivre. Moi, personnellement, j'ai plusieurs casquettes à la World Catch League. Je produis la tournée nationale. Je suis également ambassadeur de la World Catch League. Je suis également dans l'événementiel d'une manière générale. Je fais de l'acting aussi. Je fais pas mal de choses. Donc, moi, oui, moi, je vis de ça, tu vois. Après, tu peux en vivre. Tu dois juste catcher très, très souvent. Tu dois être tout le temps sur la route. Que ça soit à la World Catch League ou à l'international. Ça, c'est, chacun gère sa carrière comme il veut. Après, il y a des catcheurs, par exemple, qui ont un mi-temps. Parce que tu catches le vendredi, samedi, dimanche. Donc, le reste du temps, tu peux être très intelligent et te dire, vas-y, je vais prendre un petit mi-temps. Ça met du beurre dans les épinards, tu vois. Et tu peux très bien vivre comme ça. T'as tes après-midi pour t'entraîner, ou ta matinée pour t'entraîner, ou ta journée si tu fais des nuits, peu importe, tu vois.
Okay.
Et le reste du temps, bah, tu catches, etc. Donc ça existe, tu vois. Tu peux gérer, ça dépend. Chacun gère vraiment sa carrière à sa manière, quoi, tu vois.
Comment est-ce qu'on gagne un titre comme t'en as gagné, hein? Parce que, évidemment, tu me dis, c'est faire le show. Ouais. Donc c'est celui qui arrive à faire le meilleur show.
En fait, ça dépend. Il y a plusieurs manières. Le catch, je vais parler du catch d'une manière générale. Il y a le catch sportif, il y a le catch commercial, il y a le catch lucha libre, qui est le catch mexicain. Il y a différentes manières de voir le catch. Dans le catch américain, par exemple, c'est ce que tout le monde connaît, ce sont des storylines. C'est-à-dire qu'il y a une équipe d'écrivains, de producteurs, etc., qui font en sorte que le show est écrit d'une certaine manière, et c'est littéralement une série télé. C'est juste que c'est une série télé qui se déroule en live, sur un ring, devant un public live. L'avantage, c'est que ça peut aller dans tous les sens. Et l'avantage pour les catcheurs, mais l'inconvénient probablement pour les producteurs et les écrivains des shows de catch, c'est que tout n'est pas contrôlé à 100%. Donc, tu ne sais jamais comment ça va réellement se terminer. Tu vois, okay. Il y a déjà eu des situations. Je parle uniquement du catch américain. Il y a déjà eu des situations dans le catch américain où le scripteur demande que ça se passe d'une certaine manière. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Les catcheurs, à un moment donné, il y en a un qui refuse de le faire et ça va dans l'autre sens et ça se termine autrement. C'est ça aussi la magie du catch.
Ah ouais, c'est ça.
Dans le catch sportif, c'est totalement différent. Là, par exemple, au Japon, c'est un autre style qui est totalement différent. Là, on est plus dans l'aspect compétition. Et là, ça frappe très fort. Les chutes sont beaucoup plus appuyées qu'aux États-Unis. Dans la lucha libre, c'est un autre style complètement différent. Là, c'est un art. C'est littéralement un art. Ce sont des acrobaties, etc.
C'est vraiment une danse, hein, là.
La lucha libre, c'est différent. C'est mystique. C'est un peu mystique. Il y a un peu de fétichisme derrière. Il y a un peu de tout ce côté, un peu même sorcellerie, j'ai envie de dire. C'est très différent. Et le catch européen, c'est vraiment du sport spectacle. Alors, comment est-ce qu'on décide qui gagne ou qui perd? Bah, la plupart du temps, on le décide pas, en fait. C'est au feeling et ça se met sur le ring. Parce que le plus important, c'est pas nécessairement de gagner. Là, en l'occurrence, c'était à Pepinster. J'étais avec un gamin de Herve qui avait pas envie de lâcher l'affaire. Moi personnellement, j'ai mon petit ego aussi qui fait en sorte que j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Donc à un moment donné, après 20 minutes de match, il y en a beaucoup où ils sont HS et puis voilà, le match se termine. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout n'est pas planifié à l'avance, tout n'est pas écrit, etc. Ça existe, mais c'est pas systématique.
C'est bien de savoir ça parce que à chaque fois tu te dis ouais, mais c'était couru d'avance, que John Cena allait gagner.
Ça, c'est le catch américain.
Ouais.
Attention, c'est ça. En fait, l'avantage et l'inconvénient du catch américain, c'est que ils ont un tel monopole sur le catch qu'automatiquement, on a l'impression que le catch, c'est uniquement ça. Alors, c'est une partie très, très importante du catch, mais ce n'est pas tout. Il y a différents styles, différentes manières de travailler. Et les gens ont tendance à tout réduire à la WWE. Alors, c'est très bien parce qu'ils arrivent à donner de la lumière à tout le catch à travers le monde. Mais malheureusement, on est obligé de subir un peu les mauvais côtés, les préjugés qui sont mis en place par ce monopole américain. Mais généralement, les gens, lorsqu'ils vont dans un show de catch, par exemple de la World Catch League, ils oublient même tout ça, en fait. Ils oublient le côté spectacle, ils oublient le côté sport, et en fait, ils sont pris dans l'ambiance, et limite, ils s'en foutent que ça soit du catch américain ou du catch belge, etc. Ils sont juste pris dans l'euphorie du moment. Et nous, c'est pour tout catcheur à travers le monde, c'est le plus important, c'est ça.
Donc, le catch européen est moins truqué, quoi.
Dans tous les cas, on ne dit pas truqué, parce que truqué, c'est un peu péjoratif pour les catcheurs. Moins scripté, on va dire ça comme ça, moins scripté, parce que premièrement, il y a pas de télévision, donc il y a pas de réel intérêt d'avoir un script derrière vraiment structuré, parce que l'intérêt d'un script, c'est de pouvoir suivre les shows de catch chaque semaine et avoir une storyline. À partir du moment où tu es chaque semaine dans une ville différente, avec un public différent, ta storyline n'a pas lieu d'être, parce que les gens qui sont présents là n'étaient pas spécialement présents la semaine dernière à Pepinster, ils n'étaient pas présents la semaine précédente à Anu, etc. C'est ça. Donc ça n'a pas trop de sens d'avoir un script, tu vois. Mmh. Tout se fait par rapport au public présent et tout se fait au feeling. La plupart des matchs, je dirais 75% de ce qui se passe dans un show non WWE, c'est à l'oreille, c'est-à-dire que c'est improvisé par rapport à ce qu'on reçoit du public.
La WWE, en effet, c'était à la télévision, t'avais des histoires, des embrouilles entre catcheurs, ou à chaque fois, vous avez pas ça.
Si.
Alors, vous avez quand même des embrouilles entre catcheurs.
Bien sûr, on en a. Mais ils sont pas... Nous, on rentre pas dans le style qu'on a, c'est qu'on rentre pas dans le côté un peu cliché des Américains. Parce que les Américains, parfois... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la WWE, c'est un produit américain pour un public américain. C'est juste que ça a été exporté à l'international. C'est-à-dire que les codes qu'ont le public américain ne sont pas nécessairement les mêmes que nous avons ici en Europe. Les méchants ne sont pas nécessairement les mêmes méchants. La manière de gérer un conflit n'est pas nécessairement la même. Donc chez nous, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins cliché que ce qu'on pourrait voir à la WWE. Même moi, parfois, quand je regarde ça, je me dis, ah les gars, est-ce que c'était vraiment utile de faire ça, ou alors de le faire de cette manière, ou que ça soit si évident, ou que ça soit etc. Tu vois, chez nous, c'est s'il faut rajouter ce côté chaud, c'est beaucoup plus subtil. Et donc, le public comprend davantage, parce que c'est un produit qui est adapté au public qui est sur place, tu vois, avec une autre culture, une autre vision des choses. Donc, on reprend les mêmes idées, mais on les fait d'une manière complètement différente.
Tu parlais de la télévision. T'aimerais bien, justement, qu'il y ait un show comme ça de catch en Europe?
Bien évidemment, oui.
Ce serait un rêve aussi, ça. Ce
serait même pas juste en Europe, juste en Belgique, ça serait génial. Avoir chaque semaine, sur 4, un show de catch qui passe chaque semaine, la World Catch League sur 4. Ça serait génial, je pense que ça serait génial. Hein. Je pense que si tu faisais un sondage pour voir si les gens sont contents et ils voudraient voir ça...
Bah, écrivez-le justement en commentaire de cette vidéo si vous seriez content d'avoir du catch chaque semaine ou chaque mois, admettons.
Chaque semaine.
Mais tu le verrais plus sur les réseaux sociaux, évidemment. Le public cible de tout ça, c'est quoi? C'est plus les jeunes ou c'est plus les
vieux? C'est tout le monde. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que dans le public, on a des gens qui ont connu André le Géant, Hulk Hogan, Undertaker.
Ouais, André le Géant.
André le Géant, tu vois. Donc, c'est encore une génération plus ancienne, tu vois. Ensuite, t'as ceux qui ont connu John Cena, Randy Orton, Steve Austin.
C'est plus nous, ça.
C'est plus nous. Après, t'as ceux qui connaissent Cody Rhodes, Roman Reigns, ce sont les actuels maintenant. Et en fait, t'as de tout. Donc, honnêtement, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit même à la télé en tant que telle. Après, j'ai envie de dire, la télé en tant que telle passe progressivement sur les réseaux et sur les plateformes, etc. Mmh. Donc, c'est dans cette lignée-là. Donc, je pense que ça changerait pas grand-chose. Et c'est vrai que je pense que c'est l'objectif final du catch belge, c'est éventuellement de se retrouver avec une diffusion hebdomadaire. Surtout qu'il y a du catch toutes les semaines. Donc, c'est un petit peu dommage que le public belge n'en profite pas, quoi.
Tu parles du catch belge, mais vous vous rassemblez au niveau européen. Alors, tu parlais des Hollandais qui étaient venus faire un combat, etc. Il y a beaucoup d'échanges dans ce milieu-là.
Ouais, tout à fait. En fait, la manière de travailler actuellement en Europe, c'est qu'il n'y a pas de contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, les catcheurs qui sont à la WWE, d'une manière générale, ils font quelques exceptions, mais depuis un an ou deux. Mais depuis toujours, depuis l'histoire de la WWE, lorsque tu es à la WWE, tu catches à la WWE et tu ne catches nulle part ailleurs. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, voilà, c'est chacun a son avis sur la question. En Europe, il n'y a pas ce système d'exclusivité. C'est-à-dire qu'un catcheur peut être vendredi en Finlande, samedi en Grèce et dimanche en Belgique. C'est totalement possible. S'il travaille juste pour des structures différentes, personnellement, je
trouve que ça affaiblit le catch européen plus qu'autre chose.
Là, je comprends.
Mais parce que ouais, une grosse structure aura plus de poids que 60 petites structures. Tu vois.
C'est ça. C'est... Autant se rassembler, on est plus fort.
Mais oui, sous ensemble, un seul nom, sous une seule marque, ça aura plus d'impact que d'avoir 60 structures différentes à travers l'Europe.
Peut-être un jour, alors, hein, évidemment.
World Catch League, c'est pas Belgium Catch League. Attention.
Ouais, voilà, c'est
attention.
Ça, c'est le but aussi.
Attention, attention.
Est-ce que tu saurais nous dire comment faire un bon show? Comment capter le public efficacement?
Ouais.
T'as des prix spéciales, t'as du teasing, ça monte en intensité au cours du combat. Comment est-ce qu'on fait?
Alors, il y a différents styles de catch. Il y a différents styles de catcheurs et la manière que moi j'utilise, alors la manière avec laquelle je travaille, est complètement différente d'un autre catcheur, par exemple, qui ferait 150 kilos, etc. Parce que j'ai pas les mêmes capacités que lui et il n'a pas les mêmes capacités que moi. Moi, mon intérêt dans un match, c'est pas nécessairement de faire les prises que j'ai envie de faire. Donc moi, je ne catch pas pour moi, je catch pour le public. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est d'avoir la meilleure réaction du public. C'est-à-dire que je pourrais très bien monter sur la troisième corde et sauter 15 fois sur l'autre dans le ring, mais ça n'aura pas le même impact que si je le fais une fois au bon moment, avec le bon timing, avec la bonne réaction qui suit derrière. Donc ma manière de travailler, c'est écouter le public, voir à quel moment je devrais faire certaines choses et le faire à ce moment-là, tu vois. Donc en fait, c'est beaucoup de... Il faut être attentif à ce que tu reçois de la part du public et pas juste vouloir imposer ton idée dans le match, tu vois. Et ça, c'est une erreur que malheureusement, beaucoup de catcheurs font parce que les catcheurs partent du principe que ils connaissent le catch, ils comprennent les codes. Eux, en tant que catcheur, ils comprennent. Mais ce que tu dois réaliser, c'est que peut-être que tout le monde dans le public n'a pas ces codes-là. Donc il faut, moi, mon objectif, c'est que tout le monde dans le public, même le petit vieux qui est au fond de la salle, qui n'a jamais vu de catch de sa vie, puisse comprendre ce que je fais sur le ring, tu vois.
Ouais,
et
ouais.
C'est pour moi un show réussi, c'est un show durant lequel tout le monde a compris exactement tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin et ils ont été impliqués du début jusqu'à la fin.
Ok, c'est ça. Et pour ce faire, tu as des techniques spéciales alors ou il y a des techniques très connues quand même dans le catch
ouais,
et tu en as d'autres qui sont les spéciales des catcheurs, tu en as aussi.
Ouais, tout à fait. Ah ouais, bien sûr, ouais, j'en ai plusieurs. Moi, il y en a un que je fais que j'adore qui est super simple et qui marche à tous les coups, ce sont les 10 coups de poing. Donc il est dans le coin, je monte, je mets 9 coups de poing et le public compte avec et au moment on arrive du 10e, je travaille toute la foule, je mets le 10e et puis il s'écroule. Ça marche à tous les coups, c'est génial, tu vois. J'ai un autre truc qui s'appelle c'est une prise que voilà, si je le dis à mon avis personne ne s'en rendra compte, mais c'est l'international. C'est une séquence très très rapide où je passe en dessous puis je saute et il passe entre mes jambes. J'ai le ciseau tête que je place également, j'ai le saut de l'ange, le crossbody, le fameux saut de l'ange de la troisième corde sur ton adversaire. C'est le genre de choses que moi personnellement je fais. Alors il y en a d'autres qui placeront des chokeslam, si ça te parle, c'est quand tu attrapes ton adversaire par la gorge, tu le soulèves pour l'écraser. T'as d'autres qui feront des powerbomb, tu vois, des choses comme ça. Moi, c'est pas mon style. Moi, mon style est plus dynamique, plus explosif, donc plus dans ce côté-là, et surtout avec l'interaction avec le public.
Ok. Saut de l'ange.
Saut de l'ange.
Par-dessus, cette troisième corde, tu te propulses comme ça en avant, et tu retombes sur l'autre catcheur.
Tout à fait.
Ça doit faire mal à crever, ça. Parce que t'as beau apprendre à chuter, ça doit faire mal.
Ça fait mal. Souvent le match se termine comme ça.
C'est vrai.
Bah ouais. C'est un peu
la conclusion du truc. Quoi.
C'est mon finish. Ouais. Si je le sors, c'est rare qu'après que le match continue. Ouais. Ça peut arriver. Je dis pas que ça n'arrive pas. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que on a tendance à croire que encore une fois que tout est scripté, tout est organisé, etc. Moi, ça m'arrive très très souvent que je pars pour le saut de l'ange. Et d'ailleurs, je catch souvent avec un catcheur de la région de Verviers, tu vois, qui s'appelle Dark Mondo. Lorsque je catch avec lui, et lui c'est un gaillard, il fait 135 kilos, il soulève des camions presque, tu vois, il est énorme. Et j'adore catcher avec lui parce qu'il est très très fort, tu vois. Et moi je suis très agile, très explosif, donc ça fait deux styles complètement différents. Et parfois moi je pars pour mon saut de l'ange, je me dis ok c'est bon c'est fini, je saute et puis je vois qu'il me capte. Je me dis ah merde ça continue encore, tu vois. Et puis il me soulève et je me retrouve, tu vois, la tête en bas, les jambes en l'air, je me dis ah merde il y a la souplesse qui arrive, tu vois. Donc je peux essayer de contrer, glisser derrière pour l'emmener aux cordes. Ou alors je peux prendre la chute et ça pique un petit peu et continuer le match. Et je me dis probablement qu'il n'a pas envie d'arrêter, qu'il a envie de continuer et puis je continue avec. Mais parfois, moi-même, je me retrouve dans une de ces prises qui fait super mal,
qui s'appelle
un pop-up powerbomb, tu vois. Donc en fait, je me projette dans les cordes, il me projette dans les cordes, il me soulève en l'air et puis il m'écrase. Parfois je dégage, mais parfois quand je le prends, j'ai le souffle coupé, je dis bon, c'est bon, allez, Dark, t'as gagné, laisse-moi tranquille.
C'est incroyable quand même, parce que on se dit bah non, ils ont quand même pas mal à ce point, etc. Mais il y en a quand même beaucoup qui finissent à l'hôpital ou avec une côte cassée. Ça arrive.
Ça arrive. Malheureusement, on a eu un blessé à Pepinster qui a eu une ouverture sous l'œil. C'est un accident. Ça arrive. C'était pas du tout le but de ça, mais ça arrivait. C'est comme ça. Il a été malheureusement à l'hôpital pour se faire recoudre 5 points de suture. Ça arrive. Moi, j'ai eu les ligaments croisés à droite. J'ai eu le tendon rotulien à gauche. J'ai eu une fissure au talon. J'ai eu l'année dernière, ouf, tu veux une anecdote ?
Vas-y.
Ah, l'année dernière, la tournée nationale 2023. On catchait à Bruxelles le premier week-end de septembre, je m'en rappelle très bien. Et j'ai pris, et on m'a fait une prise, c'est un brise d'eau, tu vois, un brise d'eau très spectaculaire. Sauf que celui qui me le faisait a perdu un peu l'équilibre. Tu vois,
ok, parce
que
un brise d'eau...
En fait, si tu veux, il me projette dans les cordes, il me soulève, donc il me fait tourner en l'air. Et puis et mon dos atterrit sur sa jambe, tu vois. Donc alors ça fait mal, mais ça te blesse pas. Tu le sens passer, mais ça va. Le match peut continuer. Sauf que moi, je me suis pris la pointe de son genou en plein dans ma colonne vertébrale, tu vois. Donc vraiment, je l'ai senti direct. Et le pire, comme un con, j'ai continué à catcher au lieu d'arrêter. J'ai catché même le lendemain avec le dos en compote, tu vois. Et 3 jours plus tard, ça passait pas. Donc j'étais aux urgences parce que ça passait pas. Tu vois, ça arrive d'avoir mal au dos un petit peu, mais ça passait pas. Et on m'a dit que, bon, j'ai pas les termes exacts, mais tu vois, sur ta colonne vertébrale, t'as les petits os de
les
la
vertèbres.
Colonne, tu vois. C'est pas vraiment les vertèbres, c'est des petits os comme des cartilages comme ça qui se retrouvent là.
Ouais.
Et j'en avais qui étaient fissurés, tu vois. Ouais. Et tu peux rien faire. Tu peux littéralement rien faire. Tu dois juste patienter, tu vois, et attendre que ça passe tout seul, que ça cicatrise, etc. Sauf que moi, j'ai une tournée qui m'attend, tu vois. Donc, alors bien évidemment, quand c'est le cas, ben moi je préviens tous les catcheurs, je leur dis les gars, moi je suis blessé là, faites attention. Bien sûr, ils vont me protéger, ils vont pas chercher à me blesser. Mais pendant un mois, je n'ai pas chuté sur mon dos, tu vois, j'ai fait que des chutes faciales, etc. Et personne n'a jamais rien remarqué.
Mais mec, c'est incroyable aussi qu'il y ait un respect comme ça dans cette communauté-là. Et en plus, que t'aies continué à bosser. Parce que là, on constate qu'un sportif aurait pas du tout continué. Tandis que là, c'est plus pour le show et donc il faut que tu sois encore présent au World Catch League. Ouais. C'est absolument primordial, quoi.
Tout à fait.
Pour continuer un peu le storytelling et la tournée ensemble, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est super important. Après, je pense qu'un sportif, j'invente, qui a une petite douleur au genou, une douleur à la cheville ou qui est blessé, s'il a la certitude qu'on n'essaiera pas de le tacler sur cette jambe, je pense qu'il jouera. Il prendra pas le risque, tu vois.
Ouais, t'as raison.
Donc moi, ouais, j'ai confiance en ces gars-là, tu vois. Et je leur dis, les gars, je suis blessé au dos, s'il vous plaît, ne me faites pas chuter sur le dos. Mmh. Ok, c'est des bons catcheurs, ils me font chuter sur le visage s'il faut, sur...
C'est vrai que si t'as la certitude de pas te refaire mal encore plus là où t'es...
Tu peux prendre le risque, tu vois.
Ouais, après,
j'avais la boule au ventre à chaque fois, je me dis, merde, si je chute sur mon dos, ça va être la merde. Mmh.
D'ailleurs, c'est intéressant ça. Tu te vois plus comme un acteur ou comme un sportif ?
Comme un athlète, sûr et certain, parce que le côté acting est beaucoup moins présent que ce qu'on pourrait croire. En fait, le côté acting, il est dans... C'est même pas vraiment le côté acting. En fait, c'est le fait de pouvoir créer de l'émotion avec des gens, tu vois, de créer une connexion avec les gens. Et ça, ce sont les émotions. Moi, je ressens vraiment les émotions quand je suis sur le ring et que je crie, que je demande au public de me soutenir, etc. Mais je le ressens vraiment. C'est juste que j'augmente le curseur, tu vois. Mm-hmm. Ça, en fait, je ne joue pas un rôle quand je suis sur le ring. Je suis moi-même. C'est juste que je m'adapte à la situation qu'on est dans un sport spectacle, que c'est un show et que le but c'est de créer de l'émotion et de la connexion. Donc c'est juste mon curseur show que je pousse au maximum ou alors qui frôle le maximum. Mais dans tous les cas, je me considère personnellement comme un athlète parce que je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. Ce que je fais sur le ring, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur Terre même qui sont capables de le faire. C'est une infime minorité de ceux qui sont capables de faire ce que font les catcheurs. Donc pour moi, oui, je me sens complètement athlète. Hein. J'ai la condition physique pour faire les mêmes prouesses qu'un footballeur ou qu'un handballeur ou qu'un basketteur. C'est juste que nous, on a malheureusement cette étiquette un peu trop présente du « c'est juste du show, c'est juste du chiquet », etc.
Alors qu'on ressent bien quand tu l'expliques que c'est physique à mort.
Mais c'est pas la faute des gens. C'est juste que les gens ne sont pas nécessairement bien informés. Tu vois, ils ont juste les clichés qu'on a, qui est que le catch américain, c'est ci, alors ils mélangent automatiquement. C'est pas vraiment la faute du public. Mais je pense qu'à partir du moment où... D'ailleurs, c'est bien ce qu'on fait, c'est qu'on en parle, tu vois. À partir du moment où on explique comment le catch fonctionne et les dessous du catch, mais qu'on l'explique d'une certaine manière pour qu'ils puissent réellement comprendre comment ça se déroule, Ben les gens, après, leur vision, elle change. Ils se disent, ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pourrais croire. C'est pas juste deux gars qui font semblant de se battre sur un ring, tu vois. Il y a tout un système derrière, quoi, tu vois. Et ça, c'est super intéressant.
Ouais, à fond. Tu parles de la condition physique. Comment est-ce que t'as une bonne condition physique? Tu fais du sport intensément?
Ah, je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour. J'ai deux entraînements par jour, un cardio et un, que ce soit renforcement musculaire ou que ce soit muscu, stabilité ou explosivité ou vitesse. J'ai énormément d'entraînements. Tout est traqué chez moi, tous les entraînements sont traqués. Je sais exactement le nombre de calories que j'ai brûlées en courant, je sais la vitesse que j'ai faite, etc. C'est comme un athlète, comme on pourrait croire, traditionnel. Tout est traqué, tout est calculé, toutes mes calories sont comptées. C'est pour ça que j'ai pas touché aux chips, tu vois. C'est parce que tout est calculé. Tu vois. Et oui, je fais partie de ces catcheurs qui ont un style très explosif, très rapide, etc. Et j'ai la chance d'avoir cette condition physique qui me permet parfois de catcher 40, 45 minutes. Mon record, c'était même 1h10. Alors 1h10 pour tenir 1h10 sur le ring, il faut y aller, tu vois. Il faut y aller. Donc,
dans un sport de combat, ouais.
Que ça soit, tu sais, mais admettons, même si c'était du show, admettons que ce soit uniquement du show, qu'il n'y a pas le côté spectacle, vas-y pour tenir 1h10 à courir dans les cordes, sauter, etc. et tout, tu vois. Donc, dans tous les cas, les catcheurs, ce sont des athlètes. Il y a d'autres catcheurs de la ligue, par exemple, qui ont une force incroyable. Mais vraiment incroyable. Moi, c'est des mecs avec qui je catch. Je sais même pas comment ils font. Quand je te disais, ils tirent des camions. Le gars, il tire vraiment des camions. C'est pas une blague. Tu vois, il tire vraiment des camions. T'en as d'autres qui soulèvent des troncs d'arbres. Tout ça, ce sont des phénomènes. Vraiment des phénomènes. On a un autre qui s'appelle Kamba, qui est un catcheur kényan. Mais le mec, t'as l'impression qu'il marche sur l'air, tu vois, c'est incroyable, il saute, il a une détente incroyable, il tourne 450 degrés en plein air, il atterrit sur ses jambes, tu vois, bon, je sais pas le faire. Mais tu vois, on a tous nos prouesses techniques, tu vois, qu'on essaie de mettre en avant dans un show de catch.
Tu les avais déjà étant gosse? Tu sentais que t'avais des prouesses physiques?
Moi, je pense personnellement, sans me jeter des fleurs, que j'ai été intelligent sur un coup, c'est que j'ai pas voulu être le catcheur que je n'étais pas. C'est-à-dire que je sais que je suis limité dans certains aspects physiques, c'est-à-dire que je ne peux pas, encore une fois, je suis pas le catcheur le plus fort, loin de là, mais j'ai toujours eu une bonne détente, j'ai toujours eu une bonne vitesse, une bonne explosivité, et j'ai concentré mon catch sur ça. Donc ça, oui, effectivement, j'avais ça. Je faisais un petit peu de foot quand j'étais plus jeune, j'étais gardien, donc je sautais, tombais, etc. C'était déjà présent.
Ouais, à fond.
Tu vois, donc j'ai pas cherché à soulever des troncs d'arbres, justement, tu vois. Je suis resté dans ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire tout ce côté athlétique, et j'ai juste mieux condensé tout ça, et je me suis concentré sur tout ça, et j'ai essayé de pousser ça au maximum.
Donc toi, t'as un régime alimentaire très cadré, les autres en ont aussi, parce que tu me parles des gens qui soulèvent des troncs, évidemment, eux, ils sont peut-être un peu plus light.
En fait, oui, c'est vrai, il y en a qui sont... moi, je compte mes calories et je pèse tout ce que je mange, mais c'est pas le cas de tout le monde, bien évidemment, c'est parce que moi, j'ai préféré me diriger vers ça, mais c'est vrai qu'il y en a qui juste après le match, te bouffent deux pizzas, tu vois. C'est vrai, il y en a, tu vois. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a besoin de tous les profils. Ouais. C'est ça qui est important dans le catch. C'est que tout le monde a la chance de percer dans le catch à condition d'accepter son statut dans le catch. Encore une fois, comme j'ai dit, je peux pas soulever des troncs d'arbres. Je veux pas faire semblant d'être le gars le plus fort dans les vestiaires. C'est pas vrai, c'est pas moi. Tu vois. Mm-hmm. Mais je saute peut-être plus haut que n'importe qui, ou je cours plus vite que n'importe qui. Tu vois. Et c'est la même chose dans le catch. C'est-à-dire que ceux qui sont peut-être plus forts que d'autres, mais quand je dis plus fort, c'est physiquement plus costaud, etc. et tout. C'est bien, utilisez ça à votre avantage. Tu vois, un gars comme le Big Show, par exemple. Le Big Show, je pense que tu connais.
Ouais.
Ou André le Géant.
Ouais.
C'est pas des mecs qui font des régimes, à mon avis. Ils comptent pas ses calories, le Big Show, tu vois. Ça l'a pas empêché d'être une superstar, tu vois.
C'est leur force aussi. Voilà, ils ont joué sur leur force. Quoi.
Exactement. Ouais. Et on a besoin des gens comme ça, tu vois. Ouais, on a besoin des gens comme ça. Ce sont les catcheurs. Faut pas oublier que ce sont des athlètes, mais aussi des showmen. Mmh. C'est ça. C'est vraiment la combinaison des deux. Et les gens, le public, est intéressé par tout ce qui n'a pas l'habitude de côtoyer. C'est-à-dire que quand tu prends un colosse ou un géant, ça attire les gens parce qu'ils n'en voient pas tous les jours des géants. Quand tu vois un gars qui est, lorsqu'il se met en slip, tu vois, lorsqu'il catch en slip, il est strié, tu vois toutes les veines, tu vois tous les abdos, etc. et tout. Ils en voient pas tous les jours des gens comme ça, tu vois. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi ça le côté chaud du catch. C'est-à-dire que tu vois des phénomènes physiques qui te font des prouesses incroyables et qui ressemblent parfois même à des super-héros, tu vois, dans la vraie vie. Et c'est ça qui est génial, tu vois.
Ouais, à fond. D'ailleurs, il y a eu donc différents émois autour de catcheurs qui avaient pris des stéroïdes, etc. Donc parfois, il y en a qui tombent là-dedans. Ouais. Ici en Europe, on est plus préservé, je suppose.
Il y en a, hein, faut pas se mentir. Hein, j'ai jamais vu personnellement des stéroïdes dans les vestiaires, mais il y a déjà eu des rumeurs, etc., d'un catcheur ou un autre qui avait pris des stéroïdes, etc. Après, je pense que c'est comme dans tous les sports, il y a du dopage probablement, tu vois, parce que même dans le foot il y a eu du dopage, dans le cyclisme il y a eu du dopage, et pourtant Tu regardes les cyclistes, c'est un physique de cycliste, parfois c'est la cuisse d'un catcheur, tu vois. Donc ça veut rien dire. Il y en a peut-être un peu plus aux États-Unis ou voire même au Mexique, parce qu'on a tendance à oublier le Mexique.
Ouais, c'est vrai.
Mais oui, il y en a déjà eu en Europe, bien évidemment.
OK. Alors, au niveau des entraînements, etc., les jeunes, s'ils veulent se lancer dans le catch, comment est-ce qu'ils font ? Il y a des cours de catch ?
Il y a des écoles de catch, il y a des clubs de catch. Alors, la première chose à faire, c'est se renseigner sur l'école et le club, voir qui est sorti de cette école ou de ce club, parce que c'est un gage de sûreté, tu vois, de qualité. À partir du moment où tu as un club de catch, où littéralement toutes les personnes qui sont passées par ce club de catch n'ont eu que des carrières de 3 matchs par an qui ont duré 3-4 ans et puis qui ont arrêté, peut-être qu'il faudrait éviter d'aller dans ce club-là. Par contre, de l'autre côté, si tu as un club ou une école de catch où tu te rends compte que, peut-être pas tous les catcheurs, mais 50, 60, 70% de ceux qui sont passés par là sont aujourd'hui des professionnels qui catchent un petit peu partout, tu devrais te dire que peut-être que c'est un bon endroit pour y aller. C'est de la logique, tu vois, c'est une question de logique, tu vois. Et à partir de là, ce qui est très, très important, c'est que lorsque tu rejoins une école de catch, c'est de voir le comportement de l'éducateur ou de l'entraîneur avec toi. C'est-à-dire que si directement il te dit, OK, qu'est-ce que tu vas apprendre aujourd'hui? Tu vas apprendre le RKO? Allez, viens, je vais t'apprendre le RKO. Non, c'est des conneries, ça. Là, un entraîneur, quand tu arrives, tu n'as jamais fait de catch de ta vie, tu vas courir, tu vas sauter, tu vas chuter, tu vas d'abord apprendre à chuter, tu vas d'abord faire de la lutte, tu vois, tu vas faire du grappling, tu vas habituer ton corps à encaisser tout ça. Après, quand tu auras appris à chuter, à te placer, à courir, etc., tu vas pas faire le RKO. Tu vas apprendre les prises de base, un collier de force, tu vas apprendre un bras à la volée, tu vas apprendre peut-être à courir dans les cordes, tu vas peut-être apprendre des trucs de base. Et après, progressivement, tu arriveras dans peut-être quelques mois à apprendre le RKO, tu vois. Donc ça, c'est le genre de choses. Tu vois le RKO, ce que c'est, hein. C'est la prise de Randy Orton. Mm-hmm. C'est la prise que tout le monde adore.
Tu peux l'expliquer d'ailleurs.
Oui, le RKO, gens. C'est une prise qui a fait le buzz sur Internet parce que ça a été repris dans beaucoup de memes, tu vois. En fait, si tu veux, tu sautes en plein air, tu attrapes la tête du gars et tu te laisses tomber en arrière, tu vois. Et donc, en fait, le gars s'écrase de face. Et ce qui était bien avec cette prise, c'est qu'elle peut être sortie de nulle part sur n'importe qui. Donc, c'est devenu vraiment un meme, tu vois, sur Internet. C'est hyper connu, le RKO, tu vois. Et tout le monde a envie de faire le RKO. Je le fais, le RKO, d'ailleurs. Tout le monde a envie de faire le RKO, tu vois. Mais tu peux pas... Si à ton premier entraînement, on t'apprend à faire le RKO, mais...
C'est un mauvais entraînement.
Mais c'est même pas un entraînement, c'est une plaine de jeu, tu vois.
Ouais.
C'est comme si tu montais avec ton frère sur le matelas de tes parents et que tu essayes de faire le RKO, ça n'a pas de sens, tu vois. Mmh. Et c'est malheureusement aussi ça le problème, parfois en Europe, pas qu'en Europe, un peu partout, dans les structures un peu trop amateurs, c'est que elles ne sont pas prises en charge par des professionnels, des entraîneurs professionnels qui ont des entraînements structurés qui font en sorte que tu apprennes à devenir catcheur, pas à que tu joues à être catcheur, tu vois. C'est pour ça que je pense que des catcheurs professionnels qui savent exactement ce qu'ils font sur le ring, parce qu'être sur le ring, c'est pas juste des prises, c'est ton placement, c'est ton timing, c'est ton tempo, il y en a peut-être 10, tu vois. Le reste, il y en a qui sont pas mal, qui sont doués, qui apprennent, etc., et qui ont toute la bonne volonté pour devenir des professionnels plus tard. Mais la plus grande majorité, malheureusement, ce sont des gens qui rêvaient d'être catcheurs, qui ont peut-être testé dans un véritable club de catch, c'était un petit peu trop difficile, et puis ils sont rabattus sur un club où on leur disait directement, OK, tu joues à la PlayStation, quelle prise t'as envie de faire? Tu veux faire ça? OK, viens, je vais t'apprendre à faire ça. Mais ces gens-là, malheureusement, ils ne sauront jamais gérer un public, ils ne sauront jamais faire un match correct, parce qu'ils n'ont pas suivi le cursus qu'il faut suivre pour devenir un véritable professionnel, tu vois. Et c'est malheureusement ça qui gangrène un petit peu le catch d'une manière générale, pas la WWE, parce que la WWE, c'est un monde à part, mais même le catch en Belgique, c'est que parfois, quand tu as des petits clubs comme ça qui font des petits shows avec ce type de show-là, et que t'as une personne qui n'a jamais vu de catch en Belgique de toute sa vie, qui y va pour la première fois et qui voit un show de très mauvaise qualité, Ils vont juste se dire, ouais, les Américains, c'est les professionnels et les Européens, c'est
ils veulent plus y retourner, ouais. Et vous passez pour des amateurs aussi, alors que c'est pas le cas.
Alors que c'est pas le cas, malheureusement.
Ouais. Les gosses ont une mauvaise image du catch.
Non.
Une image un peu tronquée, tu vois, où ils essayent de reproduire, etc. C'est peut-être.
Les gosses n'ont pas une mauvaise image du catch. Les gosses ont une image erronée du catch.
Ouais, c'est ça.
Parce que les gosses, en réalité, ce qu'ils voient, qu'ils y croient à 100% ou qu'ils n'y croient pas du tout, ça les impressionne. Ils ont envie de faire la même chose, tu vois. Moi-même, tu vois, moi aussi, je montais sur le matelas de ma mère, je prenais un coussin, je faisais des descentes du coude, tu vois, je le faisais, tu vois. C'est pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux. Mais quand tu es gamin, tu n'as pas conscience de ça. Moi, c'était pas ma faute parce que j'avais 7 ans. Mais j'aurais voulu que quelqu'un soit derrière moi pour me dire, ne fais pas ça, c'est dangereux, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est la responsabilité des parents de leur expliquer que, écoute, le gars que tu vois là, c'est un athlète professionnel, limite, c'est un cascadeur si ça peut te faire plaisir, tu vois. Mais il a été à une école pour apprendre ce qu'il fait, c'est extrêmement dangereux. Si t'as envie de faire la même chose, pas de souci, termine tes études et essaye de faire la même chose que lui. Mais c'est aussi aux parents de surveiller un peu leurs enfants et leur dire, écoute, tu devrais pas faire ça. Il y a des parents qui le voient, oh, non, il s'amuse sur le lit. Ouais, mais le jour où il a son crâne qui touche le bord du lit, tu dois l'emmener aux urgences. Après, c'est facile de dire que c'est à cause des catcheurs, mais moi, c'est pas moi qui étais chez ton fils lui dire saute du bord du lit, quoi, tu vois.
Donc, s'ils ont vraiment envie d'être catcheurs, il faut les emmener dans des bonnes structures et on en a parlé.
Bien sûr, et ils peuvent commencer très très jeunes. Ils ne feront pas des chutes, ils feront des roulades, ils feront de la lutte, ce qu'on appelle la lutte à la chaussette, tu vois, c'est-à-dire où c'est un entraînement de lutte qui est spécifique aux enfants, qui tourne autour sur. C'est un jeu entre guillemets de lutte qui est le but, c'est de retirer la chaussette de l'autre, etc. Et tout, c'est des trucs qu'on fait, etc. Comme ça. Ils vont apprendre progressivement à chuter lorsque leur corps sera prêt, tu vois. Mais avant ça, il faut surveiller ses gosses, à un moment donné.
Qu'est-ce que tu aurais à dire en plus aux gens pour leur faire comprendre, en effet, que le catch européen, c'est déjà pas le catch américain, c'est tout à fait autre chose, c'est moins scénarisé, etc. On en a parlé tout à l'heure. Mais en plus, comment est-ce que tu leur dirais, bah, venez voir, en fait.
Mais tout simplement parce que si vous aimez le catch, vous êtes tout simplement curieux par rapport au catch, vous devez attendre pratiquement 5 ans pour voir du catch en vrai, si ce sont les Américains, parce qu'ils viennent une fois tous les 5 ans à Forêt Nationale. Là, si vous êtes à Liège, alors il faudra se taper jusqu'à Bruxelles et vous taper tous les bouchons du ring de Bruxelles pour aller voir la WWE une fois. Si vous êtes à Arlon, ben c'est encore plus, parce que c'est 2h30, 3h pour aller voir ça une fois tous les 5 ans, alors qu'en fait, près de chez vous, il y a du catch. Et près de chez vous, toutes les semaines, il y a du catch. Il y a du très bon catch avec des très bons catcheurs. Alors certes, il n'y a peut-être pas les 50 écrans géants qu'ont les Américains. Il y en a peut-être un ou deux, tu vois, ce qui est déjà très très bien, tu vois. Il y a peut-être pas alors les explosions incroyables qu'il y a, mais il y a de la pyrotechnie, tu vois. Donc il y a ce côté production qui est déjà mis en place, et surtout c'est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus abordable pour n'importe qui. Le prix d'entrée d'un show de catch en Belgique n'est pas le même que le prix d'un show de catch américain en Belgique. C'est-à-dire que si tu veux amener, j'invente, tu as deux gosses et toi, donc tu vas aller voir un show de la WWE à Forêt Nationale, je pense que le moins cher, t'en auras pour plus de 250 euros, tu vois. Sans boisson, sans rien du tout, sans ton parking, sans ton trajet, etc., tu vois. C'est un budget, hein. Mm-hmm. C'est un budget, mine de rien. En Belgique, chez nous, à la World Catch League, c'est entre 10 et 15 euros. Parfois, tu as même des packs famille qui te permettent de venir à plusieurs, ou des packs amis, ou des packs groupes, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus abordable et sincèrement, je dis pas ça, bah après je prêche pour ma paroisse, j'ai envie de dire, mais je le pense sincèrement. Vous allez autant vous amuser, voire même plus, parce que vous allez comprendre tout ce qui se passe sur le ring. Ouais, tu vois, ouais, tout est en français ou en néerlandais si on est en Flandre, ou peu importe, tu vois. Et tu vas reconnaître le méchant, bah tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il est méchant. Le gentil, pourquoi est-ce qu'il est gentil. Alors qu'aux États-Unis, moi, on me sort un Texan qui est méchant, je me dis, ok, c'est bien, moi j'habite à Bruxelles, tu vois, je m'en fous du Texan. Tu vois.
Qu'est-ce qu'on reconnaît chez le méchant ici en Belgique, et le gentil, à quoi est-ce qu'on les reconnaît, tu vois?
Mais franchement, les codes sont complètement différents. Hein.
C'est différent.
Les codes sont complètement différents. Par exemple, un des méchants les plus faciles en Wallonie. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vice versa, tu vois. Donc en Wallonie, un méchant très très simple, c'est un Flamand, tu vois. Et tu vas en Flandre, un méchant très très simple, c'est un Wallon. C'est très très facile, tu vois. Et le Dikkenek, si tu veux, bah c'est bruxellois, tu vois. C'est très très facile, tu vois. C'est très très simple. Et donc parfois, t'as des catcheurs qui sont qui sont adorés dans une région du pays et détestés dans l'autre. Quand je dis détester, c'est le temps du show. Hein. Parce qu'une fois que le show est fini, tout le monde vient prendre des photos avec lui, tout le monde va lui faire un câlin, parce qu'on sait que ça fait partie du côté spectacle, tu vois.
Ouais,
mais ça, les codes sont différents, tu vois. Encore une fois, moi, tu viens par exemple aux États-Unis, c'est la même chose mais avec les Canadiens ou les Mexicains. tu vois. Donc si tu, moi, tu m'amènes un Mexicain, je vais me dire, ok, c'est beau le Mexicain, tu vois. J'ai rien contre un Mexicain, tu vois. Donc voilà. Alors que ici, nos codes sont complètement différents, tu vois. Nos codes sont complètement différents, tu vois. Donc on voit pas les choses de la même manière. Une personne peut se faire huer ici et se faire adorer aux États-Unis et vice versa, tu vois.
Ouais, à fond. Toi, t'es gentil ou méchant?
Moi, ça dépend où je vais.
Ça dépend où tu vas, du coup.
Mais d'une manière générale, en Belgique, je suis gentil. Parce que je représente la Belgique d'une manière générale, que ce soit en Belgique, enfin, sur le territoire national ou à l'international. J'ai toujours le drapeau de Belgique sur moi, donc c'est difficile quand tu es en Belgique de te faire huer par tes propres compatriotes. En plus, ma musique d'entrée, c'est Tous Ensemble, Tous Ensemble.
Ah, c'est ta musique d'entrée, ça.
Ben oui, bien sûr, excellent, tu vois. Donc c'est difficile de muer. Par contre, il suffit juste que j'aille dans le nord du pays ou dans le sud du pays, que je franchis la frontière, et là, je suis détesté. Je vais en France, on me hue comme jamais. Je vais aux Pays-Bas, on me hue comme jamais. Je vais en Grèce, on me hue comme jamais, tu vois.
Ah ouais.
Mais et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais une fois un show en Angleterre, tu vois, dans une région très très Brexit, tu vois, qui était à fond pour le Brexit à ce moment-là, tu vois. Ah et, et moi, j'ai été, ah non, c'est génial, tu rigoles quoi. Bah non, et le gars, il annonce, ouais, from Brussels, tu vois, la capitale de l'Europe. Bouh. Mais moi, je suis rentré avec mon drapeau européen, avec de l'Union européenne. Mais bien évidemment, c'est du pain béni, ça, tu vois. C'est du pain béni, tu vois. Et moi, je suis rentré avec ça et je les ai rendus fous, tu vois. J'ai pris le micro, j'ai dit qu'on vous a... L'Europe a jeté les Anglais de l'Union européenne, que maintenant, ils ont des problèmes de chômage, etc. et tout. Ça les a énervés, ils m'ont détesté, tu vois. Après, ils sont venus prendre des photos et tout, tu vois. Mais oui, bien, c'est du pain béni, c'est génial, ça, tu vois. C'est ça, le côté.
J'aime bien te faire détester aussi, alors.
Moi, j'adore me faire détester, mais pas en Belgique. J'aime bien. En Belgique, j'adore, parce que c'est une communion avec le public et je vois aussi même dans les yeux des enfants, tu vois, que certains gamins se disent, ah, quand je serai grand, j'aimerais bien être comme lui. Tu vois, parce qu'il y a cette proximité. Je suis belge comme eux. Mmh. Tu vois. Et moi, j'aurais voulu, quand j'étais gamin, avoir peut-être pas une idole, mais avoir un personnage comme ça, tu vois, national, symbolique, tu vois, qui te...
Ouais, un super-héros, quoi.
Ouais, plus ou moins, tu vois, un truc comme ça. Bah, j'irais pas jusqu'à un super-héros, mais tu vois, moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais gamin. Tu vois. Moi, mes idoles, c'était Cristiano Ronaldo, donc on a le même âge. Tu vois. Donc c'était des gens comme ça. Mais j'aurais voulu avoir des symboles un petit peu comme ça. Donc en Belgique, j'aime pas trop faire le méchant, ça me dit rien. Mais dès que je suis aux Pays-Bas ou en France, je me lâche, vraiment.
T'as des anecdotes à ce propos?
Pour de quoi? De gentil ou de méchant?
Donc t'as eu Brexit.
Ah, j'ai eu Brexit. D'autres. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah bah, aux Pays-Bas, à chaque fois, on me dit retourne chez toi, retourne dans ton pays. Tellement de choses. Une fois, j'étais dans un festival, je me rappelle, il y avait 7000 personnes, tu vois, énorme, tu vois, 7000 personnes. Et moi, je suis rentré. Et moi, j'avais un truc, quand je voulais me faire détester, très très simple, je prenais le micro, tu vois. Je l'improvise, hein, je m'en fous, tu vois, je prends le micro. Et déjà, il me hue. Mais là, je leur demande de se taire. Donc, ça, ils me huent encore plus, tu vois. Et puis, je leur demande de me taire encore une fois. Et puis, je sortais une phrase qui était magique. Je l'ai fait dans toutes les villes où je vais me faire détester. J'invente. J'étais à Rotterdam, par exemple, tu vois. Je disais, ouais, moi, j'ai l'habitude de catcher à Bruxelles, à Paris, à Londres, tu vois. Et là, je me retrouve à Rotterdam. Tu vois, rien que ça, ils me huent. Ensuite, je dis quoi? Je dis, ouais, moi, j'ai l'habitude d'avoir dans le public des belles femmes. Des femmes classe, des femmes intelligentes, et quand je regarde, il y en a aucune qui a des dents. Tu vois, là, automatiquement, il me hue en plus, tu vois. Et là, je dis, ouais, moi, j'ai l'habitude d'être avec des gens raffinés, des gens classe, etc. Et quand je regarde, je vois tout le taux de chômage de Pays-Bas ici, tu vois. C'est tout, c'est réglé, tu vois. Et à ce moment-là, ils l'avaient eu tellement, ah ouais, ah ben, bien sûr, tu vois. Ils l'ont eu tellement mauvaise que je me suis pris, une armée de gobelets, tu vois, de bière, etc. Pas totalement vide, parce qu'il y avait un petit fond de bière, tu vois. Avant même que le show commence, j'étais couvert de bière, mais moi, je savais que j'avais réussi. J'étais là pour ça, tu vois.
T'étais là pour ça. Il t'avait pris aussi en disant, Aaron, est-ce que tu saurais mettre un peu le casin, etc.
Ah, ils m'ont dit cash.
Ouais,
t'es le méchant, tu catches contre un Hollandais, il doit être la star ce soir.
C'est incroyable, dit ça.
Et il était super star ce soir-là, ça, tu peux être sûr et certain, tu vois.
C'est ça. Et il est évidemment porté par la foule, etc. Il va faire des plus belles prises, ou toi aussi, t'es porté
les
par
deux,
la foule.
Les deux. Ouais. À partir du moment où plus le public est chaud, plus tu prends de risques, moins tu sens la douleur, sincèrement. Et pour de vrai, véridique, hein. Tu vois, j'en rappelle, en plus, ce gars en question, c'était un Hollandais qui frappe très, très fort, tu vois. Mais là, il frappait 10 fois plus fort parce qu'il était galvanisé, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais je te donne l'exemple de Pepinster, qui est le dernier en date. Julian, qui s'est senti pousser des ailes, tu vois, mon partenaire. À un moment donné, il était tellement à fond dedans que nous, on était en train de se battre à l'extérieur du ring. Lui, il était un peu sur le côté. Et il remonte, il monte sur la troisième corde, il saute sur nous tous à l'extérieur du ring. Donc, il était à plus de 3 mètres, 3 mètres et demi de hauteur, tu vois. Il a sauté sur nous, tu vois. Mais ça, c'est le genre de décision que tu prends quand tu es...
quand t'es chaud.
T'es chaud. Et tu sens une énergie du public parce que tu sais que le public, tout le monde est derrière toi ou contre toi, peu importe, tu vois. Mais tout le monde est impliqué dans ce que tu fais, tu vois. Et à partir du moment où tu chutes, et voilà, et tu te fais mal, hein, parce que tu peux pas truquer la chute, la gravité, tu peux pas la truquer, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu sens une explosion, tu vois. Tu sens le public qui explose, tu vois. Tu sens une énergie incroyable, tu vois. Et moi, c'est aussi pour ça que, malgré que j'étais blessé la saison dernière, j'ai quand même catché. Parce que je me suis dit, je savais ce qui m'attendait, tu vois. Je savais que t'avais ce retour du public, tu vois. Et c'est un peu une drogue, mine de rien. C'est un peu une drogue parce que c'est l'adrénaline, c'est un rush de dingue, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Et quand tu sors moi, j'adore catcher à travers toute la Belgique. Moi, je suis bruxellois de base, tu vois. Donc, forcément, j'ai une préférence pour Bruxelles. C'est normal, tu vois. Et je me rappelle que au stade d'Ixelles, c'est notre plus grand show, le plus grand show de Belgique, le plus grand show de l'année. Moi, j'ai des frissons. Ça fait 11 ans que je catch. Mais dès que je suis là, j'ai des frissons parce que dès que je sors, dès que je passe le rideau, surtout la salle est disposée d'une telle manière que t'as littéralement un mur de public. Tu vois, c'est des gradins,
ouais, mais ouais.
Un mur de public. Dès que je sors, en plus je suis chez moi, tu vois, tout le monde me connaît. Dès que je sors, oh, tu sens une énergie, tu sens une chaleur, mais vraiment, genre de la vibration. Tu
mais
vois,
il y a plein de gens en fait là-bas. Enfin, tu fais quand même des publics de dingue avec.
Bien sûr, ouais, on a fait, on fait des plusieurs centaines. La Pepinster, la première édition, on était à plus de 700 personnes. On a fait le hall du père, tu vois.
Ouais,
le hall du père,
chouette.
C'est énorme. Hein. Donc pour le remplir, il faudra quelques années. Mais on a fait plus de 700, mais 700 qui criaient comme 7000. Tu vois, c'est ça. À Bruxelles, on a fait sold out l'année dernière au stade d'Ixelles. Il y avait 800 dans ces eaux-là, tu vois. Mais oui, c'est ancré.
C'est bien.
Il y a des ambiances énormes. Ouais. Moi, le plus que j'ai eu, c'était 15 000.
Et les gens te disent, putain, je reviendrai, c'est sûr, c'était trop génial et tout.
Ils reviennent, c'est même pas qu'ils reviennent. Ils reviennent. Ouais. Tu vois, ils reviennent. Ah, j'étais là l'année passée. Et c'est marrant parce que parfois, tu sais, moi, toutes les semaines, je suis sur le ring et je vois plein de personnes, tu vois. Et parfois, il y a des gens qui c'est trop mignon parce qu'ils viennent chez moi et me disent, ah, on s'est vu il y a trois ans dans une telle date, tu vois, et tu te rappelles de moi. Je dis oui, bien évidemment, par respect, tu vois, j'ai pas envie de leur manquer de respect. Je dis oui, bien sûr, je me rappelle très bien ce show-là, etc. et tout. Mais ils se rappellent, tu vois, ça les a marqués.
C'est génial, ça.
Tu vois, et ça, c'est.
T'as une fanbase alors qui se crée.
Bah, je sais pas, ouais, mais bon, en tout cas, je suis toujours bien, bien accueilli, peu importe là où je vais en Belgique et même au-delà, même en Grèce. Ça m'a un peu étonné d'ailleurs parce qu'en Grèce, j'ai pas mal de gens qui me suivent. J'ai catché en Grèce plusieurs fois. D'ailleurs, j'y retourne au mois de novembre. Et il y a des Grecs qui me suivent.
Quel cool.
Ouais.
C'est génial. Est-ce que t'aurais rêvé ça quand t'avais commencé?
Oui, franchement, oui. Honnêtement, oui.
Là, tu vis ton rêve.
Oui, honnêtement, oui. Moi, c'était mon rêve de gosse.
Ouais.
Moi, quand j'étais gamin, c'est ce que je voulais faire. Je voulais être catcheur professionnel, tu vois. Alors,
génial.
Oui, moi, je voulais être à la WWE, tu vois. J'étais pas loin. Malheureusement, il y a le Covid qui a un peu tout cassé. Mais moi, je voulais être catcheur professionnel, tu vois. C'était mon rêve de gamin, tu vois. Donc là, moi, chaque semaine, tous les samedis ou tous les dimanches, moi, je suis maintenant... Je vis un rêve parce que je suis dans mon salon. C'est devenu mon salon. Le catch, c'est devenu le ring de catch, c'est mon salon. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial.
T'étais pas loin d'aller à la WWE?
Ouais, malheureusement. Ouais. Enfin, oui, j'étais pas loin. Oui. Oui.
Ouais. Et donc Covid, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu deux étapes en fait. La première, c'était en 2018. Là, ils ont fait un stage de recrutement pour tous les catcheurs européens. Donc j'avais été contacté. Je te dis pas le jour où j'ai reçu le mail. Mais ouais, j'ai vu le gros logo là comme ça.
Génial.
Je me dis wow.
Ouais.
Avec tous les documents, est-ce que vous êtes disponible? Mais même si j'étais pas disponible, je me serais libéré. On va pas se mentir, tu vois. Et oui, je suis dispo, etc. J'ai rempli tous les formulaires, etc., etc. Donc tout était nickel. Et puis la date est approchée. Ils m'ont pas recontacté parce qu'ils ont pris aucun Belge. Ils se sont concentrés sur les Allemands et les Français. Pas pour les signer, mais pour un stage de recrutement, pour voir un peu lesquels pouvaient les intéresser. Ils ont signé, je pense, deux ou trois Allemands, tu vois. Ils n'avaient pas pris de Français. Et donc ça, c'était la toute première fois. Et puis la deuxième fois, ça, c'était en 2018. Et la deuxième fois, j'étais en contact avec eux, donc tout à travers 2019, mais rien de concret, tu vois. Et en 2020, j'avais pour ceux qui connaissent le catch, William Regal, tu vois, qui est un des anciens catcheurs de la WWE, qui est recruteur, etc. et tout. Mm-hmm. Et donc, j'étais en discussion avec lui et il m'a, j'oublierai jamais, parce que j'ai reçu ce mail en février 2020. Oui, on arrive. Enfin, prépare-toi, sois en forme, etc. et tout. T'inquiète, si je fais deux entraînements, j'en faisais quatre à l'époque. Tu vois.
Ouais.
Et puis malheureusement, mars 2020, Covid, tout à l'arrêt, les gens c'est plus les mêmes personnes, tout à l'arrêt depuis, enfin tout est resté à l'arrêt pendant plus de deux ans en fait, parce que le Covid a duré un an et demi, mais après il fallait le temps que ça se remette en place. Et à partir de là, ben, c'était plus les mêmes personnes. La vague était un peu passée, tu vois. Ils recherchaient peut-être plus le profil que j'avais à l'époque. Mmh. Donc voilà, maintenant, si ça se trouve, un jour, ils vont peut-être chercher un Belge ou alors un Français ou quoi. Ils vont aller piocher en France ou en Belgique ou en Allemagne ou aux Pays-Bas ou quoi, tu vois. Donc c'est plus une question. La WWE, c'est une question de profil. Ce qui les intéresse, c'est pas que tu sois un très bon catcheur ou un excellent catcheur. Des bons catcheurs, il y en a partout. Il y en a au Mexique, il y en a au Japon, il y en a en Europe, il y en a partout. Eux, ce qui les intéresse, ce sont des profils. C'est-à-dire que si ils ont envie, j'invente, hein, de percer dans le marché irlandais, j'invente, eh ben ils vont chercher un profil d'un Irlandais. S'ils ont envie de percer dans le marché arabe, ils vont aller chercher un arabe. Le marché asiatique, ils vont chercher un asiatique.
Du coup, c'est chaud en Belgique. Parce qu'on n'est pas un super grand marché, quoi.
Oui et non. Après, il y a des exceptions. Il y a eu un catcheur qui a catché depuis, pendant des années à la WWE, qui était suisse. Tu vois. Donc, la Suisse, c'est pas non plus un super marché.
Non, c'est vrai.
Tu vois. Ouais. Donc, il l'avait pris. Après, c'était un phénomène, le gars. Tu vois, c'était vraiment un phénomène. Il faisait des choses incroyables, mais il était très grand, costaud, puissant dans la nature, tu vois. Mm-hmm. Donc, c'est pas impossible. Peut-être qu'un jour, on recrutera un luxembourgeois, parce qu'il est exceptionnel, tu vois.
Mais c'est vrai. On te l'espère, Aaron. On te l'espère.
Non, en fait, honnêtement, moi, je suis tellement bien maintenant où je suis, que c'est même plus important.
Ok, cool.
Avant, c'était super important pour moi parce que c'était un objectif. Maintenant, avec le recul, je me dis, si je préfère construire quelque chose dans mon pays, où j'ai ma famille, mes proches autour de moi, et j'ai vraiment une plus-value par rapport à ça, mais vraiment chez moi, j'ai de la reconnaissance chez moi, plutôt que, c'est bien, tu vas gagner beaucoup d'argent aux États-Unis, mais moi, ça m'intéresse pas d'être connu en Australie, je m'en fous, j'habite en Belgique, tu vois. Donc pour moi, j'ai plus de... Je suis très fier de ce que je fais ici en Belgique, je suis très très heureux de ce que je fais en Belgique. Si un jour, l'occasion se présente, et qu'on me met un petit chèque de 2 millions, je dirais pas non, tu vois. Mais si ça se présente pas, je suis très très heureux, ça se passe super bien. Moi, mon rêve de gosse, c'était d'être catcheur professionnel. Catcheur professionnel, pas star de la WWE, pas star du catch, mais catcheur professionnel. Et ça, Dieu bénisse.
Ça y est.
Ouais, c'est génial. Et ça fait 11 ans que ça dure, Dieu bénisse, tu vois.
Trop bien. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît un bon catcheur ?
On reconnaît un bon catcheur à pas mal de choses. Alors la première chose pour moi, ce qui est le plus important, c'est avoir un impact sur le public, c'est-à-dire de ne pas être indifférent. La pire chose qui pourrait arriver à un catcheur, c'est d'être sur le ring et que tout le monde l'oublie après 5 minutes ou que personne n'ait réagi à ce qu'il fait. Donc un catcheur, c'est beaucoup de charisme. Il faut avoir du charisme pour avoir attiré un public, etc., créer vraiment une véritable connexion. Ensuite, l'aspect technique est très important, mais il y a énormément de bons catcheurs qui étaient limités techniquement et qui ont eu une excellente carrière et qui sont maintenant dans le top 10 des meilleurs catcheurs de l'histoire, tu vois. Et c'est là que je pense que ces catcheurs-là, même s'ils étaient limités techniquement, ils étaient conscients de leurs limites et ils étaient conscients de leur force. Et ils ont concentré leur carrière sur leur force. Donc, ils sont très intelligents parce qu'ils ont su s'adapter par rapport à leur profil et par rapport au public. Ensuite, un catcheur, qu'on le veuille ou non, il doit ressembler à un catcheur. Il doit ressembler à un catcheur parce que je sais qu'il y a une là maintenant la nouvelle génération, ils sont un peu flemmards même dans le catch, tu vois, c'est que ils ont pas envie de s'entraîner, ils ont pas envie de ils ont pas envie de passer du temps à courir, ils ont pas envie de manger correctement, ils ont pas envie de ressembler à un catcheur, ils veulent juste faire les prises et que les gens les acclament. Non. Un catcheur, c'est un showman et c'est un athlète. Généralement, un athlète, tu le vois directement. Dès que tu vois un athlète, tu te dis ah ça c'est un athlète.
Ouais.
Et un showman, ben c'est aussi, qu'on le veuille ou non, le côté physique, l'apparence physique, la musculature. Tout le monde ne doit pas être à moins de 10% de graisse, non. Mais il faut que tu sois impressionnant, il faut que tu marques. Il faut que tu marques, que ce soit par ta tenue vestimentaire, ton look sur le ring ou pendant ton entrée, ou alors par ton physique, tu vois, ta musculature, etc. Ça, c'est super important. Et après, un bon catcheur, mais ça, c'est plus du côté backstage, donc le public n'est pas nécessairement conscient de ça. Un bon catcheur, c'est quelqu'un de humble. Parce qu'on a tendance à, ça a tendance à se perdre dans l'aspect spectacle, show, etc. Parce que tu sais, quand tu es catcheur, c'est les photos, c'est les images, tu vois, c'est les caméras, c'est le public. Mais il faut avoir de l'humilité pour mettre en avant quelqu'un d'autre à ta place, tu vois. Donc, un méchant, par exemple, qui doit mettre en avant un gentil, il doit être humble, hein. Il doit comprendre son rôle de méchant. Il est pas là pour se faire acclamer, il est là pour se faire huer. Et à partir du moment où tu es là pour te faire huer, tu dois avoir suffisamment d'humilité pour accepter ton statut, tu vois. Mmh. Et ce qui arrive parfois, c'est que, surtout avec cette nouvelle génération, c'est qu'ils ont envie d'être les méchants, mais les méchants cool, tu vois, les méchants qu'on apprécie, tu vois ce que je veux dire, le méchant un peu.
Les faux méchants.
Ouais, les faux méchants. Non, c'est nul. Si tu es un méchant et que tu te fais acclamer, c'est que t'as pas compris ton rôle. C'est que t'es pas un bon méchant. Tu vois. Un méchant est là pour faire en sorte que le gentil se fasse acclamer et vice versa aussi.
Ouais.
Être un bon gentil, il faut aussi que, il faut avoir ces, certains codes, certaines réactions qui créent de l'émotion, tu vois. Donc en fait, le méchant crée de la frustration et le gentil apporte une réponse à cette frustration. Mais les deux doivent être bons. C'est un tandem, tu vois.
World Catch League, qui sera encore dans notre province. Tu nous en parlais, là. Et je pense que la vidéo va être donc diffusée le 1er novembre. Le lendemain, vous avez un spectacle.
Ouais, tout à fait. Le 2, on sera à Herstal, à la Préal. Donc, c'est une salle mythique ici dans la région. Je pense qu'il y a eu énormément de galas de boxe, hein, surtout, hein, principalement.
Beaucoup de galas de boxe à la Préal, ouais. Une salle assez mythique.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est la première fois qu'on fait ça ici à Herstal. Alors, on s'attend à avoir un public très, très chaud. Ça, c'est sûr et certain. C'est une première, on ne sait pas exactement combien de personnes. On s'attend à un maximum de gens, bien évidemment, un peu comme à l'instar de Pepe Aster ou de Catch XL au stade d'XL. D'ailleurs, montrer aux Bruxellois que vous en avez aussi, tu vois. mais ça va être énorme, et surtout pour l'occasion, nous, ce qu'on fait, donc, quand on a des gros shows comme ça, il y a une espèce de thématique particulière. Par exemple, à Pepe Aster, Pepe Mania, la thématique, c'était la mallette dorée. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est l'objectif, c'était remporter une mallette. Chez nous, c'est la mallette dorée. Les États-Unis, ils ont une mallette accrochée en hauteur et tu dois grimper la détacher. Nous, c'est un peu différent. C'est une mallette dorée, tu ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Et lorsque tu remportes ce match, bah, tu as la possibilité d'utiliser cette mallette dorée dans une période de 365 jours. Alors, si tu l'ouvres, ça se trouve, c'est un contrat pour un match. Ça se trouve, tu te fais virer, mais tu ne sais pas. C'est une loterie, tu vois. Ça, c'était la thématique de Pepe Mania. En l'occurrence, à Couvain, on avait eu un show où là, c'était le trophée Constant Le Boucher, tu vois, pour en hommage à un ancien catcheur des années du siècle dernier. Et là, pour Herstal, alors corrige-moi si je me trompe, mais on n'est pas loin de la Cité Ardente ici, non?
Absolument, ouais. On est en plein dedans, là, à Liège, mais Herstal, on est juste à côté. Ouais.
On est sur la frontière de la Cité Ardente. On peut même dire qu'elle est aussi un petit peu ardente, Herstal, n'est-ce
pas? Ouais, absolument.
Eh bien, nous, on a créé le trophée des Ardentes. Et le trophée des Ardentes, ça va être un match très compliqué. En plus, je serai dans ce match, puisque c'est un match à 4 équipes par élimination. C'est-à-dire que tu auras 8 catcheurs, et ça va aller dans tous les sens. Et la dernière équipe debout, ou le dernier représentant de la dernière équipe debout, remporte le trophée des Ardentes. Et ça va aller dans tous les sens. Alors, je sais pas, peut-être qu'on se retrouvera dans les gradins, peut-être qu'on se battra même dans la rue d'Herstal, peut-être qu'on se retrouvera jusqu'à Oupey ou jusqu'à Hermé, mais oui, ça va être énorme. En plus de ça, il y aura donc le match de championnat de la World Catch League qui opposera la France à la Belgique. Donc okay. Ça va créer aussi plus d'autres matchs style lucha libre et plus d'autres matchs, etc., etc.
Génial. Donc ça, c'est le 2 novembre.
Le 2 novembre
à la Préal à Herstal. Ouais, super. Il y a qui à l'affiche?
Aaron Ramy, déjà. Et Julian Ventura, mon partenaire. Dark Mondo, qui est de Verviers. On a le Sheikh Kamal, qui est l'ancien champion de la World Catch League et recordman, d'ailleurs. Il a tenu la ceinture pendant 344 jours. C'était énorme, jusqu'à la perdre à Pepe Aster il y a pas très, très longtemps. On a également Tyson dos Santos, qui est le bulldozer portugais. Énorme, une machine de 120 kilos, énorme. On a A-Buck, le géant parisien, qui est d'ailleurs qui avait été contacté par la WWE, qui fait plus de 2 mètres. On a Ima, le géant batave et pas bâtard, tu vois, qui sera là, qui fait 150 kilos. On a Kamba Jaguar, qui est notre Kenyan. Il y a énormément de catcheurs qui sont présents. Et on a nos jumeaux grecs. On a des jumeaux qui viennent directement de Grèce pour l'occasion. Ils étaient présents à Pepe Aster, ils reviennent pour l'occasion. Et ouais, ça s'annonce très très bien. Il y aura du grand art sur le ring. Et on s'attend vraiment à un show de folie bien 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 infernal.
Eh ben, trop bien. C'est le 2 novembre, alors, à la Préal à Herstal. Et si vous voulez suivre les aventures de Aaron Ramy et ses compatriotes, c'est sur la World Catch League. Je suppose que vous êtes sur les réseaux sociaux.
On est surtout worldcatchleague.com,
Facebook, Instagram, TikTok,
YouTube. On a même d'ailleurs D'ailleurs, la saison, on peut la suivre, en fait, hein, parce que tous les mercredis, il y a un épisode qui sort sur YouTube avec les.
Eh ben, trop bien. Moments. Ok, n'hésitez pas à suivre alors, et n'hésitez pas à nous suivre aussi. Merci d'avoir été avec nous un vendredi supplémentaire. On se retrouve vendredi prochain avec une nouvelle histoire. N'hésitez pas à vous abonner d'ici là, n'hésitez pas à commenter avec la personne que vous souhaiteriez voir dans notre émission. Vous étiez sur Snack. Ciao.